Bonjour, il est 10h, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure du Chiffon Radote. Le Chiffon Radote, c'est l'émission de la rédaction du Chiffon, le seul journal papier indépendant d'information locale sur Paris et sa banlieue. Aujourd'hui, une émission un peu particulière dans son format, puisque notre entretien repose sur l'habileté de nos amis en régie Paul et Catherine à établir la liaison par téléphone, et aussi parce que notre sujet est assez rare dans son aptitude à n'intéresser absolument personne. On va parler des bibliothèques. J'exagère, évidemment, en disant que les bibliothèques n'intéressent personne. Elles intéressent les étudiantes et les étudiants, évidemment. Les romanciers et les romancières, considérablement. Et les bibliothécaires, passionnément. Mais c'est comme à bas bruit, comme si le silence concentré de livres accessibles gratuitement peinait à se faire une place dans l'attention contemporaine. Il en va pourtant d'un enjeu assez considérable, des lieux où l'on peut rencontrer la déflagration des textes, en être saisi, des lieux où la lecture vient raconter, donner à penser, faire exister des arrière-mondes, devrait au plus haut point requérir l'intérêt écologique ou éco-sophique. L'écosophie, c'était Deleuze et Guattari qui s'étaient amusés à en forger le concept en associant le préfixe grec « écho », qui désigne ce qui a un rapport avec la maison, et la sophia de la sagesse. L'écosophie, donc, ce serait la sagesse en relation avec la grande maison commune de la Terre. Or, il n'est pas impossible que les livres et leurs maisons à eux, nos bibliothèques, courent de bien grands risques sous les assauts conjoints des réductions budgétaires, de la fascination comptable et du systématisme managérial à éradiquer tout ce qui peut faire sens dans les métiers. On explique ? On explique. En partant d'abord de l'article « La bibliothèque dissoute » à retrouver dans le chiffon numéro 6. Si vous ne l'avez pas acheté à la criée en manif, le chiffon vous attend dans une kyrielle de librairies et de lieux amis que vous pouvez retrouver sur notre site lechiffon.fr. Vous verrez, c'est très bien fait, il y a même une carte. La bibliothèque dissoute. Qu'on les fréquente ou non, on tient comme à l'arrière-plan de la conscience leur existence pour acquise. Pourtant, nos bibliothèques, ouvrant leurs portes à tous et multipliant les supports de prêt, résultent d'une histoire conflictuelle sur le libre accès à la lecture. On en reparlera avec notre invité tout à l'heure. Les termes du conflit sont aujourd'hui déplacés. Et alors qu'une loi récente les reconnaît comme équipement public, paradoxalement, leur pérennité paraît rien moins qu'assurée. L'année 2021 a semblé faste pour les bibliothèques. Aucune loi n'avait jamais fixé leur mission, c'est désormais chose faite. Votée à l'unanimité au Sénat et à l'Assemblée nationale, la loi Robert, du nom de la sénatrice PS Sylvie Robert qui l'a portée, consacre le principe de gratuité de l'accès aux bibliothèques et garantit le pluralisme de leurs collections, les préservant de toute forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ou de pression commerciale. Cette dernière mention visant notamment à circonscrire la capacité des élus RN à choisir les collections. Il se trouve que ça a dû arriver. À l'initiative de l'ADBV, l'Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France, à dire sans respirer, elles auront aussi, dès la fin de l'année, leur enseigne dans l'espace public. Un peu comme les croix vertes des pharmacies ou les carottes des buralistes. Normalement, tout irait bien. Pourtant, les personnels des bibliothèques universitaires sont en grève à Paris 8. À Saint-Denis, Christine Picot regrette d'achever sa carrière de médiathécaire avec rancœur, selon ses termes. Et un sondage auprès de 1083 bibliothécaires collectés par le magazine Archimag, destiné à la profession, en juin 2021, déclare que la profession souffre d'un malaise. Le bibliothécaire serait-il grincheux par nature? Ou bien la multiplication d'injonctions contradictoires lui rend-il le travail impossible? On va revenir sur quelques motifs du malaise. Éric et Noël vont en goguette. En 2017, le Premier ministre Édouard Philippe exprime le vœu de voir la France rester ou redevenir une nation de lecteurs. Sa ministre de la Culture missionne alors l'académicien Éric Orsenna et le conseiller aux affaires culturelles Noël Corbin pour enquêter sur l'état des bibliothèques et entamer un dialogue avec l'ensemble des acteurs sur le rôle des bibliothèques dans la cité, leur modernisation et le développement de la lecture chez nos concitoyens. Leur rapport « Voyage au pays des bibliothèques » sera remis en 2018. Tout en soulignant l'extraordinaire dévouement des 38 000 agents et 81 000 bénévoles qui en assurent l'ouverture, les auteurs pointent insuffisance et retard dans la conception du service rendu par les 16 000 bibliothèques qui maillent le territoire. En cause, la disparité de leur tutelle de rattachement. Ainsi, les bibliothèques municipales dépendent des communes et des intercommunalités, mais pas les bibliothèques associatives, qui sont majoritaires dans le monde rural, ni les bibliothèques universitaires. Cela induit des différences de culture professionnelle et rend difficile l'exploitation conjointe de leurs ressources. Si un titre sur l'histoire locale existe dans une petite bibliothèque associative, il n'apparaîtra pas dans le catalogue d'une bibliothèque universitaire de la région. Centraliser, déposséder. En manière de conduite exemplaire, le rapport met au contraire en avant le choix de mutualiser les fonds, citant en exemple le parti pris de l'intercommunalité pleine commune dans le nord-est de Paris, autour de Saint-Denis. La conséquence immédiate, nous dit Anne, médiathécaire à Stein, c'est que l'on ne connaît plus nos fonds. Les achats sont regroupés dans une direction qui n'est pas dans nos bâtiments. Et il faut en passer par le rangement dans les étagères juste pour savoir ce qu'on a. Que devient le conseil ? Le fond, ce sont les collections conservées en réserve ou accessibles sur les rayonnages. Le constituer, le conserver, le désherber, c'est-à-dire envoyer des titres au pilon, constituent les trois actes de la politique documentaire. Catherine Bajot, médiathécaire à la ville de Paris, résume lapidairement la direction des choix opérés. Le taux de rotation est roi. Le taux de rotation, c'est la vitesse et la fréquence à laquelle sort un titre. Un titre qui n'est pas emprunté prend la place qu'un autre titre pourrait occuper. Catherine Bajot poursuit. Dans de petites bibliothèques de quartier, c'est en effet nécessaire. En revanche, ma collègue qui s'occupe du fonds poésie à la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e arrondissement de Paris, s'est battue pour conserver des titres qui sortent peu. On s'en doute, le logiciel qui évalue la fréquence n'est pas apte à penser la valeur de la conservation. Christine Picot surenchérit, elle se souvient du moment où il a fallu qu'on achète des titres comme « Closer » sous prétexte que, ouvrez les guillemets, c'est ça que les gens lisent. Catherine Bajot décrit un mouvement plus général, ce qu'on appelle la bibliothéconomie, qu'elle a vu s'installer dans les années 2000. On a pensé, dit-elle, que pour faire venir les gens, il fallait qu'ils retrouvent sur nos rayonnages ce qu'ils voient au supermarché. Le papillon, il a des ailes vers une bibliothèque sans lieu. En ce sens, le choix de l'enseigne distinguant les bibliothèques dans l'espace public est ambigu. C'est un papillon bleu dont chacune des ailes a la forme d'un cœur stylisé. Au centre, le mince corps qui pourrait figurer la tranche d'un livre porte écrit le mot bibliothèque. On saisit les suggestions du design. Bleu d'un ciel infini, légèreté des ailes de l'esprit qui s'envole, émotion palpitante à ouvrir les pages d'un livre. Cependant, Malik Diallo, président de l'ADBV, à l'origine du projet, s'empresse de préciser que le mot « bibliothèque » pourra ou non être écrit. Et il insiste beaucoup lors de notre entretien. Parce que les bibliothèques, ce ne sont pas seulement des livres. Qu'est-ce qu'il a contre le tatouage, le papillon? Est-ce qu'un mot inscrit sur son corps lui pèserait? Pourquoi cette réticence envers une allusion au livre? Il faut chercher sans doute la réponse du côté de l'Angleterre, où les bibliothèques ont mué depuis 2002 en « idea stores ». En anglais, c'est un jeu de mots. « Store », c'est la réserve, le lieu de stockage. Mais aussi, par extension, le grand magasin. Dans son article du Bulletin des bibliothèques de France, le BBF, très lu, qu'elle consacre aux bibliothèques, troisième lieu en 2010, Mathilde Servet, conservatrice, explique que ces nouvelles structures cherchent à s'inscrire dans la compétition avec l'industrie des loisirs et des produits culturels. L'usager est appréhendé comme un client dont il s'agit de gagner les faveurs. Suspense sur la suite, on va maintenant lancer une pause musicale. Oui. retour sur Radio Libertaire 89.4. C'est toujours Le Chiffon Radote, l'émission du Chiffon, le journal papier indépendant de Paris et de sa banlieue. On parle aujourd'hui de la situation des bibliothèques à partir de l'article « La bibliothèque dissoute » à retrouver dans Le Chiffon numéro 6. On a expliqué en première partie qu'une loi fixant les missions des bibliothèques avait été votée au début de 2021, qu'elle avait été préparée par un rapport « Voyage au pays des bibliothèques » écrit par Éric Orsenna et Noël Corbin, que les conclusions de ce rapport, de l'avis même des personnels des bibliothèques, venaient fixer une tendance déjà à l'œuvre depuis une vingtaine d'années dans la gestion, qui s'adresse à l'usager comme un client dont il s'agit de gagner les faveurs. Le savoir n'étant pas à vendre dans les bibliothèques, qu'ont-elles à proposer ? Un ensemble de services, ateliers d'alphabétisation ou de conversation en langues étrangères, initiation au numérique, séance de compte, découverte de l'impression 3D, loisirs, auto-formation, développement personnel. C'est attrayant. Et un public de non-inscrits fréquente à ces occasions la bibliothèque. On les appelle les fréquentants. Le rapport Orsenna-Corbin s'enthousiasme pour cette diversification d'activités et préconise d'encourager les bibliothèques à se concevoir comme tiers-lieu ou troisième lieu entre domicile et travail. Les bibliothèques universitaires suivent le même mouvement et l'agrément qui va au-devant des besoins a présidé à la réorganisation des espaces dans la bibliothèque de Paris 8. Honnêtement, super confort. Pouf sofa pour une sieste. Salle isolée pour le travail en groupe. Espace informatique constitue désormais l'environnement de travail proche de l'idéal des étudiants. Gain en confort incontestable. Mais sur quoi la place a-t-elle été gagnée ? C'est la difficulté. En discutant avec une bibliothécaire responsable des espaces innovation à l'intérieur de la BU, elle explique que ces espaces ont été pensés prioritairement et de façon univoque. On n'a pas pris en considération la place des collections qui devaient donc être laissées. On n'est pas en train de dire qu'il faut conserver indistinctement, absolument, tous les ouvrages, tous les magazines. Mais il s'agirait simplement de réussir à penser, en même temps, les innovations et leurs conséquences. Dans la cinquième édition, en 2015, de leur manuel de référence, Les bibliothèques, Anne-Marie Bertrand et Yves Alix citent une étude de l'Association des directeurs de bibliothèques universitaires. Et cette étude constate un appauvrissement généralisé de la documentation universitaire en France. Il n'est pas impossible qu'Éric Orsenna et Noël Corbin se soient abstenus de consulter la littérature professionnelle. Leur proposition en témoigne. Je cite. De quoi les étudiants ont-ils le plus besoin pour travailler ? Une table, une prise électrique et une connexion Wi-Fi. La déduction qu'ils en tirent laisse pantois. Ne pourrait-on pas, à l'heure où le coworking se développe partout, le mettre en place le dimanche dans les locaux administratifs fermés, dans les restaurants universitaires ? En passant allègrement par-dessus la tête du personnel, assimilé à la seule fonction de gardiennage. Et évidemment, en occultant la possibilité qu'on a matériellement de rencontrer des textes simplement parce qu'ils sont au contact de ceux qu'on cherche sur les étagères. Des kiosques à livres dans les piscines. Si la bibliothèque n'a plus pour spécificité d'être le lieu où l'on travaille parmi les livres, pourquoi ne pas aller plus loin ? Et le rapport d'imaginer. Il est permis de rêver. Pourquoi pas des kiosques à livres dans les piscines, dans les salles de sport, les salons de coiffure, dans les salles d'attente des médecins ? S'interroge-t-il, assimilant allègrement bibliothèque et kiosque à livres. C'est vrai que c'est très agréable de bouquiner étendu sur sa serviette. Quant au titre qui résisterait physiquement à pareil traitement, on s'interroge. Peut-être Tchoupi prend son bain dans une édition plastifiée. Plus sérieusement, cette assimilation questionne. Est-ce qu'un kiosque à livres équivaut à une bibliothèque? Si oui, où s'assoit-on? Et que deviennent les personnels dont la qualité de l'accueil repose sur la connaissance précise de leur fond? Mutation ou dissolution d'un métier. Les représentations des missions professionnelles des bibliothécaires se sont considérablement modifiées. Nous y reviendrons avec notre invité sur une période historique assez restreinte. Jusqu'à la fin des années 60, la fonction de conservation a prédominé. Les bibliothèques étaient conçues comme des lieux d'études. On admettait les enfants, je cite, qu'à partir de 7 ans, sous réserve qu'ils soient propres, calmes et soigneux. Témoin de cette culture révolue du soupçon, le bulletin de l'Association des bibliothécaires de France jugeait utile de faire un rappel en 1969 et à nouveau en 1971, pour redire aux collègues que l'usager n'est pas un délinquant en puissance. Depuis lors, la culture des bibliothécaires s'est transformée. Elles et ils tiennent ensemble une double exigence de conservation patrimoniale et d'accueil du public. Yves Alix, qui a dirigé l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothécaires, ou des bibliothécaires, pardon, où l'on forme les futurs conservateurs, juge qu'aujourd'hui, pour les étudiants de l'ENSIB, le maître mot, c'est l'accès. L'accès de tous à toutes les bibliothèques. Voilà, les fréquentants, les usagers, tout le monde. Donc les générations contemporaines de conservateurs, aligné en cela sur la préoccupation des élus de justifier les moyens alloués aux bibliothèques, se soucie donc avant tout de faire venir du public et du chiffre et du chiffre. Reste que l'extension indéfinie de leur mission met à mal les bibliothécaires en les confrontant couramment à des demandes auxquelles elles ne peuvent pas répondre. Catherine Bajot le dit très bien. Les collègues, on les comprend, ont des réticences à aider les usagers à faire leurs démarches sur le site des impôts ou de la sécurité sociale. Oui, on les comprend, en effet, la confidentialité des informations d'un dossier de santé n'est pas supposée être portée à la connaissance d'un tiers non tenu par le secret professionnel. Le Sénat et l'Assemblée nationale, on l'a dit, ont voté à l'unanimité la loi sur les bibliothèques. Cependant, en mentionnant dans leur mission à la fois qu'elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'électronisme, sénatrices, sénateurs, députés semblent oublier que l'électronisme, aujourd'hui en France, ce n'est pas ignorer comment envoyer une photo en pièce jointe à sa petite nièce. Ce que l'électronisme interdit, c'est l'accès aux prestations sociales dues de droit. Le personnel des bibliothèques, aussi soucieux soit-il de répondre aux demandes, n'est pas formé à l'assistance sociale tout-terrain. Et cette confusion entre bibliothèque et Maison France Service frustre autant les agentes et les agents que les usagers. C'est à nous qui faisons le prêt que les gens s'en prennent. On m'a carrément dit « vous ne servez à rien », témoigne ainsi avec amertume Christine. Voyage au pays des bibliothèques a été édité chez Stock. Interrogé sur son contenu, qui, disons-le, me scandalisait, l'inspecteur général des bibliothèques Yves Alix, l'ancien inspecteur général, le qualifie de survol. Seulement voilà, Éric Orsenna est un académicien à bonne bouille et à la prose chaleureuse. Le livre paraît sous son aura. Et quand il n'existe sur un domaine professionnel qu'un seul titre grand public, même si la candeur y dispute à l'approximation, c'est ce titre qui fera autorité par sa disponibilité même. D'un paradigme l'autre, agriculture et culture. Le participe passé latin qui a donné le mot culture vient du verbe colérer, qui portait les deux sens de cultiver la terre et d'habiter. Quel autre domaine que les lieux du livre a semblablement connu Dans la France d'après-guerre, des mutations imposées, présentées comme inévitables, l'enthousiasme obligatoire censé les accompagner et une ferme résolution nationale à les mettre en œuvre sans tenir compte de la pratique des gens de métier, l'agriculture. Les enseignements que l'on tire au présent de l'état de la campagne, son désastre cadastral et le mutisme définitif des vies qu'il habitait, permet sans doute de lire les effets les plus vraisemblables de cette dissolution envisagée des bibliothèques. Dépourvues de lieux propres, bâtiments, rayonnages, réserves, réduisant les bibliothécaires aux fonctions minimalistes de gardiennage et d'accompagnement administratif, ou déportées dans le grand cloud, c'est-à-dire réduites à l'accessibilité virtuelle. L'évidence de la nécessité sociale qu'un lieu existe ou dure des livres réapparaîtra probablement quand elles en seront venues à manquer. Bibliophiles, à vos gambettes, pour vous réinscrire et faire mentir la statistique de la bibliothèque de quartier.
Migration, my relation. I'm Jamaican on your radio station. Got a curse and could be worse. And you first in a hearse. Cause it's dead, there's nothing left. And nothing left inside my head. And I need a headrest and feel from a warm breast. And then making hits from my childbirth hips. Underground, like who you sound like. We all sound the same and you don't know my name.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et c'est toujours Le Chiffon Radote, l'émission du Chiffon, le journal papier indépendant de Paname et sa banlieue. Et nous allons maintenant nous entretenir avec notre invité par téléphone, Éric Dussert. Vous êtes là, Éric ?
Je suis là, bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes critique littéraire, éditeur, et vous qualifiez d'aratoire vos pratiques de lecteur. Alors, pour les impénitents citadins que nous sommes, on rappelle que les instruments aratoires sont ceux qui servent à fouir, à creuser dans la terre. Et cette pratique aratoire vous conduit à des exhumations qui donnent du relief et élargissent l'histoire littéraire. Vous avez ainsi publié, par exemple, un recueil des premiers haïkus composés en français et deux contre-histoires successives de la littérature. En 2013, une forêt cachée, une autre histoire littéraire, 156 portraits d'écrivains oubliés, aux éditions de la Table Ronde. Et en revenant sur ce travail, vous apercevez que la proportion de femmes de lettres y est minime. Donc vous reprenez vos instruments aratoires pour les exhumer. Et ce sera 5 ans plus tard, caché par la forêt, 138 femmes de lettres oubliées, toujours à la Table Ronde. Cette présentation convient ou vous souhaitez ajouter quelques mots sur votre pratique?
Elle est plus que parfaite.
alors c'est parfait. Bon, alors c'est un autre titre que l'on s'entretient avec vous aujourd'hui, parce que vous êtes l'auteur, dans Le Monde diplomatique du mois de novembre, d'un article, Désherber les bibliothèques, sur lequel on va revenir. Vous aviez l'année dernière publié avec Christine Aillon, Bonne sieste en bibliothèque, dans le même journal, et ça va également nous servir. Voilà, on va commencer sur ce projet de lecture publique comme idée révolutionnaire. Parce qu'aujourd'hui, il nous paraît évident d'avoir accès aux bibliothèques et aux livres, et pourtant c'est un projet, les faire exister, ces bibliothèques publiques, qui a mis presque 2 siècles à aboutir. Et vous rappeliez avec Christine Aillon que, par exemple, il n'y avait pas de bibliothèque publique sous l'Ancien Régime. Et vous articuliez dans la jeunesse de cette utopie au projet révolutionnaire. Comme on aime beaucoup les histoires, est-ce que vous voulez nous rappeler l'histoire des bibliothèques à grands traits ?
Mais les bibliothèques sont une histoire de, pendant très très longtemps, de possédants. On possède le savoir. Le savoir à Alexandrie, par exemple, c'est le savoir des clercs, des savants de Ptolémée. Donc c'est pas quelque chose qui se partage dans la mesure où la lecture elle-même n'est pas partagée, où la connaissance est un bien précieux des possédants. On a une émergence du savoir partagé très tardivement, et la lecture publique elle-même intervient très 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 tardivement en France, il me semble. De même que l'éducation de la Troisième République, hein, les hussards noirs finalement, prennent l'éducation des mains des curés tardivement. Et pour les lectures publiques, c'est un peu la même chose, avec des lois successives et une action qui débute souvent par l'éducation populaire. Hein, les bibliothèques sont souvent des clubs de lecture améliorés de quartier.
Oui, avec la pratique de l'arpentage aussi, on peut avoir...
L'arpentage, etc. On a beaucoup parlé de l'école, mais la bibliothèque est un outil complémentaire, hein, et très radicalement complémentaire de l'école. On le voit émerger en parallèle. Et aujourd'hui, où on constate que l'école peut patiner un petit peu, peut avoir des difficultés, pas les personnes, hein, des éducateurs, mais l'institution elle-même, eh bien on constate que peut-être les bibliothèques sont elles-mêmes dans un entre-deux qui est pas forcément positif, à tel point qu'on ne les appelle plus des bibliothèques, mais des médiathèques. Et donc la référence au livre a été effacée. Alors on va me dire qu'Internet cultive, que les CD-ROM ont cultivé pendant quelque temps. Quelque part au fond de moi, il y a la conviction que le livre en papier reste un vecteur absolument universel et d'une efficacité éprouvée.
Mais je vous rejoins, sinon on ferait pas un journal papier. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi, il y a beaucoup d'aspects. Il y a soustraire aux grands yeux de Google les lectures qu'on partage. Et puis il y a une sensualité, une commodité de cet objet technique. Enfin ouais, absolument précieux. Et alors pour articuler avec les bibliothèques maintenant. Vous en veniez dans l'article avec Christine Haillon, Bonne sieste à la bibliothèque, à questionner les usages du terme démocratisation, employé, semble-t-il, aujourd'hui, disiez-vous en tout cas, au fin de se passer de là où du bibliothécaire qui est un regrettable sachant. Alors, ça m'intéresse beaucoup, ce regrettable sachant, du point de vue de la démocratisation. Mais j'ai l'impression aussi que le travail de lecteur qu'on évoquait, en présentation, s'articulerait presque avec ce que vous espérez de la mission des bibliothécaires qu'ils et elles réassument avec joie et enthousiasme de se voir en passeurs, en explorateurs de l'occulté. Ça serait quelque chose comme ça ?
Ce serait exactement la même chose que la fonction du libraire, en fait. Mais en non marchant. Voilà. Ouais.
Donc donner des conseils, savoir, voilà, connaître.
Être présent, connaître son lecteur. Lorsqu'on s'en prenait à la notion de troisième lieu, dont on m'assure maintenant que c'est plus du tout à la mode.
Oh, c'est pas vrai.
ça me paraît un peu délicat parce que j'ai plutôt l'impression qu'on est passé au quatrième lieu. Mais cette notion justement de communiquer de l'intérêt, exciter l'imagination, tout ça disparaît en réalité. Et pour moi, le bibliothécaire, à moins que ce soit un bibliothécaire particulièrement pervers qui au contraire veut préserver le savoir, on en connaît, hein, mais le conserver, le garder pour soi, auquel cas il ressemble beaucoup plus à un bibliophile qu'à un bibliothécaire, on est dans un dispositif où la personne occupant professionnellement la bibliothèque est un animateur socioculturel.
Oui.
Voilà, on a un glissement et ce qui glisse, bien c'est le savoir transmis par les livres.
Oui, il faut toujours qu'il y ait une mise en scène ou une espèce de déport. Ouais, ouais.
Alors, ça, je pense que ça parle beaucoup de l'état d'esprit des bibliothécaires qui font un métier le plus souvent très remarquablement. Il n'est pas question de contester leur savoir, leurs compétences, etc. Simplement, je trouve que la profession vit une gêne. Et elle vit une gêne qui, à mes yeux, leur est imposée par une exigence, une injonction à la modernité. Voilà. Je connais des bibliothécaires qui sont paniqués à l'idée de ne pas savoir comment maîtriser le big data ou l'intelligence artificielle. Voilà. Et cette injonction, elle est totalitaire, elle est terrorisante. Et chez des jeunes bibliothécaires, elle a un effet radical, c'est que il est hors de question de perdre du temps à s'occuper de l'histoire du livre, parce qu'en fait, on est en train de faire l'intelligence artificielle.
Oui.
Le problème avec tout ça, c'est qu'on perd tout contact avec l'intelligence naturelle.
Et
ce serait bien de ne pas perdre. C'est une question d'éthologie, de pratique. N'oublions pas les gestes. Pas les gestes. Et on parlera de désherbage tout à l'heure. Le désherbage, c'est l'un des gestes des bibliothécaires. C'est un geste très important. Savoir lire une bibliographie, c'est quand même une des compétences du bibliothécaire. Je ne suis pas certain que ce soit encore des choses qu'on enseigne vraiment très très fort dans les écoles.
Non, mais vous parliez aussi d'intimidation et de. Enfin, ce que m'expliquaient d'autres. Des bibliothécaires, j'allais dire des collègues, ça me vient naturellement. Ce que m'expliquaient des bibliothécaires, c'est qu'il y avait d'abord une différence là, de culture générationnelle entre des gens qui font ce métier depuis longtemps, puis ont des réflexes aussi, qui sont des réflexes syndicaux, des réflexes de penser le management à sa place. Et puis des jeunes collègues qui arrivent, qui sont peut-être aussi dans une plus grande précarité, et qui acceptent tout ce qu'on leur dit comme voilà, comme étant normal, quoi.
Naturellement, ils ont leur carrière à faire.
Ouais.
Naturellement, ils ont toute leur vie à mener avec un métier qui, à mon avis, est quand même un petit peu incertain. C'est un petit peu comme le métier de prof. Aujourd'hui, les profs, je trouve que ils doivent se sentir très mal quand on s'aperçoit qu'on les remplace par des gens qui sont formés en 3 jours.
C'est assez décourageant.
C'est effrayant.
Ouais,
c'est effrayant. C'est angoissant. C'est terrébrant. C'est voilà. Comment est-ce que on peut se vivre soi dans ces conditions et on devine que la logique les logiques qui président à ces mouvements sont très simples. C'est que on veut nous vendre de l'informatique, on veut nous vendre du service informatique, et on veut à tout prix que les budgets soient réduits. Voilà. Donc le bibliothécaire, qui est un professionnel spécialisé, qui coûte plus cher qu'un intermittent qui viendrait 20 heures par semaine, pour surveiller des espaces sans attribution particulière, eh bien, ce serait très pratique.
Oui, et j'ai parlé dans le papier de la connaissance des fonds, là, qui était la première chose que m'a fait remarquer Anne Astin. Et vous, c'est aussi une des articulations dans votre article, c'est la connaissance du fichier, enfin du catalogue. Je vais poser une question minimale, mais en quoi cette connaissance du catalogue, c'est-à-dire des fonds qui sont disponibles et la capacité à faire des liens, en quoi c'est une des conditions d'exercice du métier pour vous ?
C'est une des conditions. On n'est pas bibliothécaire à la BULAC, hein, la bibliothèque de l'INALCO, des langues orientales. On n'est pas bibliothécaire à la BULAC comme on est bibliothécaire à Sainte-Geneviève, à la BPI, hein, qui est une bibliothèque publique d'information. On n'est pas chargé de collection en sciences politiques comme on l'est en mathématiques. On a nécessairement
un domaine de spécialisation, finalement.
Une spécialisation dans un domaine qui n'est pas forcément notre domaine initial, hein, mais très nécessairement, on acquiert des connaissances pour servir. C'est un peu comme la Légion étrangère, hein. pour servir. On est là pour servir des besoins d'information. Lorsque Wikipédia ne donne plus de réponse, eh bien, le bibliothécaire est là qui supplée. dans les grandes bibliothèques, notamment les bibliothèques nationales du monde entier, il y a toujours une salle du catalogue. Je crois qu'à la BN, c'est la, je crois pas, j'en suis sûr, c'est la salle X. Rien à voir avec le cinéma.
Oui.
Les personnels qui sont là sont des personnels hautement compétents qui sont capables de passer une demi-journée sur une recherche pour vous aider. Voilà,
oui,
ce sont des gens qui sont hyper compétents en recherche bibliographique.
Voilà. C'est vrai que les bibliothécaires avec qui j'en ai parlé, ma maman au premier chef, que j'embrasse, parlait toujours d'un virus, quoi, le virus de transmettre la lecture. Il y a un truc de prise en charge hyper passionné. Mais alors, j'ai employé un mot dans l'article qui est bibliothéconomie. Je me demandais si vous pouviez nous expliquer d'où vient le terme, qui l'emploie et quelle sorte de science ou d'administration ça désigne.
Ah bah la bibliothéconomie, économie, donc c'est la gestion d'eux, hein, la manipulation d'eux, et biblio, c'est le livre. Donc en fait, c'est comment se dépatouiller de piles de livres.
D'accord.
En gros, c'est toutes les sciences, enfin les sciences, toutes les techniques qui permettent de manipuler du livre à bon escient.
Et dans les médiathèques
Le catalogage, la cotation, le rangement sur les étagères, le désherbage, on en parlait, et on va en parler, toutes choses qui sont les techniques propres, ce sont les techniques propres du bibliothécaire.
D'accord.
Voilà.
Bon, alors comme on va en venir au désherbage maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le terme et quel imaginaire peut-être véhicule cette
Alors, le désherbage est un terme très agricole, mais qui signale que dans un fond qui peut être un épi de bibliothèque, d'ailleurs c'est assez drôle, je pense à l'instant, dans un épi, on va prendre les livres qui ne sortent pas, ou qui ne sont plus utiles, ou qui sont désuets parce qu'ils contiennent des informations désormais fausses. Je pense par exemple aux livres de médecine.
Ah oui.
Dans les bibliothèques, on ne va pas laisser en place des livres de médecine de 1970.
Oui.
Pour un certain nombre de pathologies, ce serait dangereux.
Oui. Voilà. Et épi, ça veut dire quoi?
Un épi, c'est un peu comme au supermarché, c'est une rangée de d'étagères.
Mais moi, je ne connais pas les mots du supermarché. Je ne vais pas au supermarché.
Un épi, oui. Voilà, on voit l'idée. Enfin,
et donc, votre papier dans le diplôme sur le désherbage en bibliothèque nous apprenait l'existence d'un acronyme ACBA qui est YUPI.
C'est là où mon article prend son envol, parce que l'enjeu de cet article, c'est moins les bibliothécaires qu'un certain nombre de pratiques dont on va parler ensuite. YUPI, c'est un acronyme qui nous vient évidemment des États-Unis, hein, puisque l'Empire décide.
Est en forme, oui.
Voilà, et nous absorbons benoîtement. Donc c'est youpi, c'est inutile, obsolète, usagé, etc. C'est tous les cas où l'on doit enlever les livres des rayons. Voilà. La question que pose cet article sur le désherbage, c'est que d'abord, dans le terme désherbage, il y a quelque chose de très insolent ou de très, comment dire.
Ça fait un peu penser à l'emploi des phytosanitaires, quoi.
Exactement, c'est un peu leste, et c'est considéré que des livres peuvent être de la mauvaise herbe.
Mmh.
Voilà, donc là, déjà, moi, je suis un peu... j'aimerais juste aimer qu'on trouve quelque chose... Juste aimer, pardon, qu'on trouve un autre terme que ce désherbage.
Hein. C'est épilation.
Déclassement, on aurait pu appeler ça du déclassement, par exemple.
Ouais.
Voilà.
Oui.
Donc, on retire des rayons... Du libre accès, souvent, hein, c'est des livres qui sont directement en contact avec les lecteurs. On retire des livres dont on doit se débarrasser. Voilà. Et ensuite, l'article s'interroge sur les conditions de la réutilisation de ces livres, mais on en reparlera.
Oui,
en tout cas, c'est une technique qui est rendue nécessaire pour un certain nombre de choses. C'est que les fonds de bibliothèque publique, eh bien, elles sont tendues entre conserver des choses importantes, des classiques, et fournir de la documentation et des fictions nouvelles, appétissantes pour les lecteurs. Il est vrai qu'un livre de poche de 1958, jauni avec le papier qui sent le vieux, c'est pas forcément hyper excitant. Donc, on conçoit tout à fait qu'une partie de ces livres doivent disparaître de la vue des lecteurs pour faire place à des nouveaux livres. Ça, c'est, étant donné la surproduction éditoriale, on comprend tout à fait l'enjeu.
Moi, je veux bien comprendre...
Autre enjeu, c'est les bâtiments. Donc là, ça concerne les édiles. Hein, pourquoi les bibliothèques n'ont-elles pas des stocks plus importants, des lieux de stockage plus importants? Ça, c'est une deuxième chose. Et troisième chose, on en parlera ensuite, je pense, c'est pourquoi... certains livres sont transmis à des entreprises privées qui font du chiffre d'affaires avec. Voilà.
Oui, ça, c'est ce que vous expliquez dans l'article.
Voilà, l'enjeu de l'article, c'est ça, c'est ce troisième point.
Oui, ça prenait tout à fait sa place à l'intérieur du diplôme. Mais, pardon, je me perds dans ce que vous dites. C'est pas mal de choses qui me viennent. Si, notamment sur les enjeux, c'est-à-dire que les élus, à ce que j'ai compris, enfin, en tout cas pour les bibliothèques des territoires, puisque des municipales et des intercommunalités, c'est comme si les élus étaient en permanence obligés contraints de, ou je sais pas quoi, ou en tout cas soucieux de justifier les budgets et les attributions de budget aux bibliothèques. Alors, comme en même temps les collectivités locales voient une baisse de leur dotation de l'État, une baisse de leur rentrée d'argent.
On comprend bien ce qui se passe hein, de ce point de vue. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus d'argent pour les bibliothèques. On est bien d'accord. Donc peut-être qu'on est venu, c'est là où on parlait du flottement du métier, peut-être que l'on est arrivé à une époque où il va nous falloir tous collectivement inventer de nouvelles bibliothèques.
Hein.
Je sais que chacun utilise aujourd'hui des boîtes à livres pour se débarrasser des livres qui encombrent.
Les livres de poche des années 50, notamment.
Ben, en particulier, mais moi, je vois souvent des merveilles hein, dans les boîtes à livres. Voilà, donc là, il y a une circulation. Et le livre, il est fait pour ça. Le livre, il est... ces boîtes à livres, aujourd'hui, c'est le colportage d'aujourd'hui. Et vraiment, c'est quelque chose de très plaisant parce qu'on voit apparaître des des ensembles documentaires tout à fait passionnants. On s'aperçoit que la personne qui est passée avant avait une fascination pour la littérature italienne ou le polar ou le chinois ou je sais pas. C'est vraiment très très agréable de pénétrer comme ça des univers documentaires, livresques, fictionnels, qui nous sont jusqu'ici échappés, par exemple. Voilà, c'est là où la malice des livres intervient à plein, c'est-à-dire que on utilise souvent dans les bibliothèques une expression pour signaler un phénomène qui se produit très souvent, c'est la loi du bon voisin. Cette loi du bon voisin, elle consiste à... Enfin, comment elle s'exprime ? Lorsque vous allez chercher un livre sur un rayonnage, 9 fois sur 10, vous partez avec celui d'à côté.
Oui, oui.
Parce qu'en fait, tout d'un coup, celui-ci est devenu beaucoup plus excitant et intéressant que celui que vous veniez chercher.
Oui, oui, ça. Voilà. C'est aussi c'est pourquoi les propositions du Voyage au pays des bibliothèques, le rapport Arsène Corbin, sont saisissantes, quoi, de ne pas penser le lieu. Avec, parce que justement, ça interdit ça, cette loi de se produire si on enlève les étagères de livres.
Oui. non, mais bien sûr. Et puis, ce rapport contient d'autres choses assez croquignolettes, comme les livres dans les bibliothèques.
Les livres dans les bibliothèques.
Les livres dans les piscines.
Ah, les livres dans les piscines, oui,
c'est très saugrenu. Mmh. Je pense que ces deux messieurs n'ont jamais vu ce qui se passe quand un livre est près de l'humidité.
Je pense qu'on
peut effectivement mettre des boîtes à livres dans les bibliothèques,
dans les piscines,
enfin à côté ou dans les entrées des piscines, mais
c'est pas la même chose.
Des clubs de lecture dans la salle, dans le vestiaire, je le sens pas trop. Quoi. C'est quand même, c'est très gentil de leur part d'essayer d'avoir des idées, mais là on voit bien qu'on est à côté.
L'enjeu
de transmission de la culture aujourd'hui, il est hautement plus grave que ce genre de petites choses. Je crois que quand on en est à certaines propositions éditoriales, je pense qu'il est grand temps qu'il y a un mouvement pour la culture. Et c'était les fondements des bibliothèques, hein, les bibliothèques populaires, les MJC, et puis avant tout ce qui s'est produit sur les universités populaires au tournant du 1900. Voilà, il y a un enjeu aujourd'hui de culture populaire et de culture populaire de qualité.
Oui, oui, voilà. D'émancipation. Et c'est vrai que, enfin, moi je suis toujours marquée, je le rappelle aussi souvent que possible, mais j'avais lu des statistiques sur mai 68, il y a une augmentation du nombre, alors là pour le coup d'achat de bouquins qui est exponentielle, juste sur le mois de mai 68. Donc il y a vraiment, quand on est dans ces moments de soulèvement et de révolte sociale, on a bien besoin de se nourrir qui est
évidemment,
assez considérable.
Oui. On a besoin de fondements. Et ces livres qu'on voudrait nous faire désherber, ce sont notre fondement. On a besoin de ça, c'est inévitable.
Mais alors, c'est une opinion qui est partagée autour de vous, chez les bibliothécaires que vous rencontrez, où tout le monde est passé à la consultation sur le net.
C'est très très partagé. Mes plus jeunes collègues sont des fanats de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ils sont fascinés par l'idée que l'ordinateur puisse reconnaître des images de girafes sur Internet. Voilà, c'est bien. Enfin, sans doute que des iconographes ont besoin des girafes, mais ce qui me paraît vraiment important, c'est de donner à lire. Et de donner à lire des choses qui sont à lire. C'est pour ça qu'un site comme Gallica de la Bibliothèque nationale de France, par exemple, est quelque chose d'essentiel à mes yeux. Mais ça ne peut pas remplacer le travail des bibliothèques de prêt locales.
Et vous dites que Gallica est essentiel. Alors, moi, je sais que je m'en suis servi pour des choses que je ne trouvais pas ailleurs. Ça fait quoi, Gallica, on le rappelle, hein ?
Alors, Gallica, c'est la numérisation des collections de la BNF en version intégrale, hein, et de certaines bibliothèques partenaires de ces opérations, transmises sur un site qui s'appelle gallica.fr et qui a la spécificité de rendre à la population l'intégralité du trésor national. Voilà, c'est la première fois dans l'histoire du monde que une bibliothèque ou qu'un État, qu'un prince rend à la population son trésor.
Voilà. Alors ça m'intéresse vachement. Je veux pas vous retenir trop longtemps, mais j'ai eu l'impression, enfin parce que on parle de bon, plein de choses m'intéressent, mais le rapport ambigu de l'État à justement ses collections, son patrimoine, son savoir. La BNF en est un très très bon exemple parce que c'est la bibliothèque François Mitterrand, hein, qu'elle s'appelle. C'est des grandes tours massivement dressées. Je me souviens, j'étais allée à l'inauguration et c'est la première expo sur laquelle s'ouvrait cette bibliothèque. Elle s'appelait Tous les savoirs du monde et c'était l'encyclopédisme à travers les âges. C'était vachement beau.
Ah, une très très belle exposition.
Ouais, oui. ouais, vraiment. Je sais pas ce
qu'il y en a une pas très très longtemps après qui était l'Utopie.
Ah.
qui était justement une espèce de complément fascinant du savoir du monde.
Et mais alors justement ce rapport de l'État à ses livres, parce que la loi sur les bibliothèques, elle a été votée à l'unanimité. Et moi, qui suis d'une méfiance quasiment paranoïaque à l'égard des consensus dans les lieux de pouvoir, je me dis, mais c'est fou, si c'était important, il n'y aurait jamais eu unanimité. Quand il s'agit de voter des lois budgétaires, il n'y a jamais eu unanimité dans les deux chambres. Et donc, j'arrive pas à comprendre si c'est... très important, si c'est un consensus, parce que de toute façon on s'en fiche, si parce qu'en même temps il y a voilà, c'est un symbole et puis
j'ai la vague impression que ce consensus il est lié au fait que ou comment dire les choses autrement, c'est un peu comme le rapport qui a eu lieu là, le voyage au pays des bibliothèques, on s'intéresse, on fait mine de s'intéresser au sort des bibliothèques, mais on laisse les budgets décroître d'année en année.
D'accord. Voilà. Donc c'est juste un effet d'affiche, quoi.
Très personnellement, je trouve. Alors il y a un petit effet politique, hein, puisque le but c'était d'éviter que les conseils municipaux puissent censurer les ouvrages, et on voit à qui s'adresse le message. Voilà, donc ça c'était une façon d'autonomiser les directions de bibliothèque par rapport aux édiles. Simplement, jusqu'à quel point, malgré la loi, le bibliothécaire est-il libre par rapport aux édiles ? Ça c'est une question fondamentale que la loi ne résout pas. Mais en tout cas, ils ont la loi pour se soutenir, en fait. Voilà. Après, naturellement, il faut des décrets, il faut un passage à l'acte.
Oui.
Donc, tant que les décrets ne sont pas signés, personnellement, et je ne sais pas, j'ai pas suivi tout ça, je ne sais pas s'il y a eu des décrets ou pas. Il faudrait que je vérifie.
Mais il y a eu un vif encouragement et des budgets consacrés à l'extension des ouvertures pour que tout le monde accepte de travailler le dimanche.
Voilà, c'est ça. Effectivement.
Il y a un budget c'est budgété jusqu'en 2022. Après, débrouillez-vous.
Voilà, 2022. Donc c'est pas budgété, en réalité. Ouais. C'est juste un effet d'annonce. Ça ressemble beaucoup aux effets d'annonce d'un gouvernement qui veut prétendre s'occuper de la culture. Or, le ministère de la culture est un ministère qui disparaît peu à peu de la surface du monde. Il me semble qu'il existe toujours, mais les ministres de plus en plus transparents, les actions de plus en plus, comment dire, protocolaires. Et le fond des opérations de plus en plus mécéné, en réalité.
Oui, c'est ça.
On se tourne vers le mécénat, vers les grandes marques de champagne, et le travail au quotidien n'est pas autant soutenu qu'il le devrait. Voilà, et je pense que tous les bibliothécaires voient à peu près de quoi je parle. Les budgets ne sont pas à la hausse, très, très nettement. Par contre, le budget du ministère de la Défense a augmenté l'an dernier, je crois, de 4,9%. Voilà.
Alors qu'on peut très bien utiliser des livres pour taper sur les têtes des gens.
Exactement. Moi, je dis qu'une campagne militaire à base
de dictionnaire...
Extrêmement efficace. Vous savez qu'on peut mourir écrasé par une bibliothèque. Ça arrive.
Voilà. Il faut quelqu'un pour la lancer, mais
ça relancerait le sport. Dans les grandes campagnes contre la malbouffe, ce serait parfait.
Écoutez, ouais, on va peut-être s'arrêter là. Je vais vous laisser, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées, mais on va renvoyer à votre article tout à fait passionnant, Désherber les bibliothèques dans le monde diplomatique de ce mois de novembre 2022, ainsi qu'au précédent Bonne sieste à la bibliothèque, donc qui analyse la mutation des bibliothèques en tiers lieu. Je vous remercie beaucoup. C'était merci, vraiment merci. Agréable de vous entendre. Et puis, voilà, puis nous, on va reprendre une dernière petite pause musicale et on va continuer l'émission. Eh bien, au plaisir de vous relire.
Bon week-end à tous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Voilà, donc...
Toujours sur Radio Libertaire 89.4. C'était aujourd'hui le chiffon radote consacré aux bibliothèques à partir d'un article, La bibliothèque dissoute, à retrouver dans le chiffon numéro 6. Notre émission va se conclure sur les choix musicaux de Paul, qui assurait aujourd'hui remarquablement la régie technique avec Catherine, que nous remercions. Le chiffon, c'est un journal papier indépendant d'informations locales sur Paris et sa banlieue. Il est vendu à la criée sur les parcours de manif et dans différentes librairies et lieux amis. Vous pouvez les retrouver sur notre site lechiffon.fr. Pour soutenir notre travail,
n'hésitez absolument pas à nous contacter, soit pour nous suggérer des lieux de vente, soit, pourquoi pas, pour vous abonner. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire sur papier ou à nous envoyer des mots d'amour ou bien de rage. On prend, ce sera à l'association Le Chiffon, 84 rue de Charenton, 75 012 Paris, ou par mail, l'adresse de contact le_chiffon@riseup.net est disponible sur le site. Voilà, il est temps de vous souhaiter un excellent week-end. C'est bien parce que nous étions le 12 novembre que nous n'aurons exceptionnellement qu'un invité et que l'émission est un peu écourtée. Les bibliothécaires sollicités m'ont dit « Eh ben, je travaille » ou « Je pars en week-end » parce que c'est le lendemain du 11 novembre. Et on leur souhaite un très bon week-end aussi. Et comme c'était la journée qui suit, celle du 11 novembre, on ne saurait trop vous recommander la lecture des albums de Jacques Tardy, par exemple « Adieu, brin d'avoine et la fleur au fusil » ou encore « La der des der ». Évidemment, vous l'aurez compris, si vous ne les avez pas à la maison, vous savez quoi faire, courir jusqu'à la bibliothèque.